Classique 21. Classique 21. You rock.
Classique 21, soundtrack. Avec Laurent Deboeuf.
Voilà, et avec vous toutes et tous, et on entame tout de suite notre spécial David Gilmour pour ses 80 ans avec ce premier titre, No Way.
There's no way. Cause it's my show.
No Way pour David Gilmour. Et là, on était sur son premier album solo qui était paru en 1978, spécial David Gilmour à l'occasion de ses 80 ans fêtés vendredi dernier, le 6 mars, spécial qui comprendra également le 20e anniversaire de l'album On an Island, celui-ci étant sorti le 6 mars 2006, soit pour les 60 ans de ce guitariste chanteur. Alors, je ne vais pas retracer son parcours avec Pink Floyd, ce qui a déjà été fait plus qu'une fois, mais plutôt retracer son parcours solo et peut-être aussi certaines de ses collaborations les plus remarquables. On va se concentrer là-dessus. Donc ça, c'est ici les collaborations, c'est un petit peu à l'instar aussi de ce que Dominique Ragueb a pu vous proposer cette semaine avec son Time Machine. Mais rappelons tout de même que David John Gilmour est né à Cambridge le 6 mars 1946. Le petit David se vit, ceci dit, privé de ses parents vers l'âge de ses 5 ans. Son papa Douglas Gilmour était conférencier en zoologie et en génétique pour l'université de Cambridge, et tandis que sa maman, Sylvia Wilson, qui était d'origine américaine, elle était née à Washington, est aussi enseignante, mais également monteuse vidéo pour la BBC. Sa vie familiale, donc comme pour celle de ses deux frères et de sa sœur, a été marquée par de fréquentes et longues absences de ses parents qui avaient des engagements professionnels aux États-Unis. Néanmoins, quand ceux-ci revenaient à la maison pour plusieurs mois, la chaîne était constamment branchée. Il y avait tout le temps de la musique, que ce soit avec la radio, avec des vinyles. Sa maman jouait aussi du piano et puis son papa adorait chanter. David Gilmour a reçu sa première guitare à l'âge de 10 ans. Quand je dis reçu, c'est un peu particulier parce qu'elle a été empruntée à un voisin et donc il avait appris à jouer avec cette guitare et notamment avec un disque et un livre de Pete Seeger. Cette guitare, il ne se souvient pas l'avoir rendue un jour à ce voisin qui était donc son ami. Pendant ses études à la Perth School de Cambridge, David Gilmour jouait de la musique avec un certain Syd Barrett et un certain Roger Waters, tous deux élèves donc du lycée de garçons de Cambridgeshire et qui, bah, nous le savons, deviendront plus tard ses camarades de Pink Floyd. Au milieu des années 60, avec des amis, il tenta de gagner sa vie en jouant dans la rue en Espagne, en France. Il a fait un peu de mannequinat aussi. Cependant, leurs efforts furent, on va dire, si vains que David Gilmour dut rentrer et être hospitalisé pour malnutrition. À noter que dans cette période, il y a une légende qui avait prétendu qu'il avait eu une relation avec Brigitte Bardot, ce qu'il a démenti. En revanche, il a bien eu un lien d'amitié avec sa sœur, donc la sœur de l'icône de Bardot. C'était Mijanou Bardot. Ça, c'était pour la petite histoire. Et la carrière donc de David Gilmour qui démarre déjà ici à la fin des années 60 par une envie de collaborer avec d'autres musiciens et de proposer ses connaissances en tant que producteur. Mais ça, j'y reviendrai. Ici, il est 10h48. Je vous propose déjà de nous diriger vers les tops de 11h. Après, on retrouvera Laurent Ripi. Et ici, on va revenir avec un extrait de ce qui était déjà ici son deuxième album solo qui sortait en 1984, cet album intitulé About Face. Et c'est un morceau d'ailleurs avec lequel David Gilmour ouvrait aussi les concerts de la tournée qui avait suivi la sortie de cet album About Face, donc en 1984. C'est Until We Sleep. We'll be right back. Until We Sleep, à l'instant, sur About a Face en 1984. Alors, comme je le disais il y a quelques instants, la carrière solo de Gilmour avait déjà démarré bien avant. Hein. Déjà en 1969, il avait tout naturellement collaboré avec Syd Barrett, remercié par Pink Floyd qu'il avait créé. Et il n'en restait pas moins un de ses meilleurs amis, hein, en tout cas du Diamant Fou. Aussi, lorsque Barrett, malgré sa santé mentale défaillante, eut décidé de revenir à la musique, Gilmour n'avait pas hésité à l'aider. Le premier album fut Madcap Love, sur lequel il jouait de la basse et coproduit donc l'album avec Roger Waters. C'est une collaboration pas facile, on s'en doute, hein, mais malgré cela, Gilmour a à nouveau produit le deuxième album donc de Syd Barrett, simplement intitulé Barrett. Une autre collaboration qui est intéressante et pourtant méconnue dans la carrière de Gilmour fut en 1974 avec le groupe Unicorn, rencontré au mariage d'un ami et à qui il confia son amour pour le country rock, et ensemble ils travaillèrent à la création de l'album Blue Pine Trees qui était sorti donc en 74. Ensuite, une autre collaboration remarquable fut avec le chanteur Roy Harper. Leur relation remonte au milieu des années 70, hein, lorsque Pink Floyd enregistrait Wish You Were Here et sur lequel Roy Harper enregistra le chant sur le titre Have a Cigar. Et après cela, Gilmour participa aussi à plusieurs albums de Roy Harper, tels que The Unknown Soldier en 1980 ou encore Once, qui était sorti en 1990, en plus d'avoir composé plusieurs chansons ensemble. 1984, suite à la séparation de Pink Floyd, David Gilmour décida de reprendre sa carrière solo. Dans un esprit de compétition, Roger Waters préparait également un album, ce qui l'amena à collaborer avec les meilleurs musiciens tels que Steve Winwood, le bassiste Pino Palladino, John Lord de Deep Purple, le producteur Bob Ezrin, indissociable aussi de plusieurs albums de Pink Floyd, Roy Harper qui était dans les chœurs, tout comme la chanteuse Sam Brown aussi, et puis le batteur Jeff Porcaro. Pete Townsend, des Who, était là aussi, mais à la coécriture de deux titres. Tous ces musiciens prestigieux se retrouvent donc sur cet album About a Face, et c'est tout naturellement que je vous en propose un extrait. Cette fois, c'est bien pour rejoindre les tops de Deezer. Morceau donc coécrit avec Pete Townsend, c'est All of Us Are Deranged. We'll be right back. David Gilmour avec All Lovers Are Deranged, morceau coécrit avec Pete Townshend. Je reviendrai bien entendu tout à l'heure sur la suite de son parcours et aussi de ses collaborations. Mais là, ce qui arrive dans un petit instant, c'est Laurent Riepy qui est déjà prêt d'ailleurs et qui lui va revenir en revanche sur le 20e anniversaire de l'album On an Island, puisque cet album était sorti pour les 60 ans de David Gilmour, soit le 6 mars 2006. On se retrouve dans un petit instant.
Classique 21, Soundtrack, avec Laurent Deboeuf.
Would this do to make it all right while sleep has taken you where I'm out of sight? I'll make my getaway time on my own, search for a better way to find my way home to your smile. Ooh.
Smile à l'instant, et c'est donc déjà la troisième partie de notre soundtrack de ce matin. Et donc ici, ça s'étend évidemment avec la spéciale David Gilmour pour ses 80 ans hein, qu'il a eu, c'était vendredi. Et donc cette spéciale qu'on a déjà commencé ensemble il y a quelques instants, ici maintenant, ça va être une partie dédiée à l'album On an Island. C'était son troisième album solo, un album qui a mis du temps à arriver puisque le précédent était sorti dans les années 80, mais on aura l'occasion d'en parler. Et cet album était sorti donc le 6 mars 2006. C'est le jour précis du 60e anniversaire de David Gilmour. Aujourd'hui, on est 20 ans plus tard, donc évidemment, c'est le 20e anniversaire de cet album On an Island. Et c'est avec Laurent Rippy qu'on va partager cette spéciale. Bonjour Laurent.
Ben oui, c'est vrai, Laurent, un album qui fait plaisir d'être réécouté aujourd'hui. Hein. C'est un album qui a bien vieilli 20 ans plus tard. Et aussi un album fondamental qui arrive après une très très longue pause. Alors son précédent album solo à David Gilmour, c'était About Face, hein, ça remonte à 1984, donc imaginez 22 ans de séparation entre ce deuxième et ce troisième album, donc ça fait beaucoup. Et puis à l'époque de About Face, Gilmour était dans une période un peu particulière de sa carrière, il était coincé dans les limbes par Roger Waters juste avant que ce dernier ne quitte finalement officiellement Pink Floyd. Ensuite, David Gilmour s'était totalement consacré finalement à maintenir Pink Floyd à flot malgré l'absence de Waters, et il n'avait plus vraiment de temps pour se consacrer à un album solo.
Et alors là, entre-temps, l'eau a coulé sous les ponts. Au moment d'enregistrer On an Island, David Gilmour, comme je le disais, donc fêtait ses 60 ans. Enfin, ça, c'était pas au moment de l'enregistrement, mais au moment de la sortie. Mais en tout cas, c'est un homme qui, à ce moment-là, sait exactement ce qu'il veut et surtout ce qu'il ne veut plus.
Ah, c'est tout à fait ça, hein, Laurent. Il venait d'ailleurs de le prouver peu de temps auparavant, lors de la reformation historique de Pink Floyd, hein, pour le fameux Live 8, Live 8, hein, organisé par Bob Geldof. Et en pleine répétition, David Gilmour avait notamment catégoriquement refusé de jouer le plus grand tube, un des plus grands tubes de Pink Floyd, hein, Another Brick in the Wall. Il expliqua à Roger Waters à ce moment-là que chanter We Don't Need No Education lors d'un concert caritatif mondial n'avait absolument aucun sens, du moins pour lui. Et donc le message était clair, Gilmour était désormais un homme de conviction, un homme apaisé et qui avançait à son rythme, sans consigne et certainement sans, en tout cas, devoir répondre aux demandes de Roger Waters.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis, il y a un apaisement qui se reflète aussi dans sa façon de travailler. Hein. C'est fini les grands studios froids et aseptisés, parce que pour ce disque, il s'installe à bord de l'Astoria, donc ce légendaire studio péniche qui est amarré sur la Tamise.
Et oui, effectivement, c'est un endroit magnifique et ce n'est pas n'importe quel bateau. Il a une histoire, il a été construit en 1911 pour Fred Carnot, le célèbre impresario qui a notamment découvert Charlie Chaplin et Stan Laurel. D'ailleurs, Chaplin va aussi habiter sur cette péniche.
Ce bateau, ouais.
Ouais, et c'est un endroit que j'ai pu visiter, qui est juste magnifique.
J'avais de la chance. Hein.
C'est vrai que j'avais de la chance sur ce coup-là. Je dois avouer, Gilmour a racheté donc ce magnifique endroit, cette magnifique péniche en 1986. Il expliquait qu'il ne supportait plus à cette époque-là les studios sans fenêtres et qu'il avait besoin en fait de voir l'eau s'écouler doucement pendant qu'il jouait parce que ça l'apaisait tout simplement.
Et c'est là qu'il a retrouvé l'inspiration pour trier 10 années de maquettes qu'il avait accumulées. Il a fait d'abord appel à son voisin, c'est un ami aussi, hein, c'est le guitariste Phil Manzanera, ainsi qu'au producteur Chris Thomas pour, je cite, lui botter un petit peu les fesses. C'était pour finaliser le disque.
Ben oui, c'est vrai, hein, on sait que Chris Thomas parfois prenait un petit peu son temps pour travailler, grand producteur, hein, qui avait travaillé avec les Beatles, Roxy Music et plein de gens. Donc une belle équipe, et c'est vrai, s'il y a bien aussi une personne hein, dont l'influence est absolument cruciale sur cet album On an Island, c'est bien son épouse qui est romancière et journaliste, Polly Sampson.
Absolument, et sur On an Island, elle signe la quasi-totalité des textes, ce qu'elle avait déjà fait en partie aussi sur l'album Division Bell, déjà en 1994, ouais. Et Gilmour confie volontiers que l'écriture des paroles a toujours été une véritable souffrance pour lui et qu'il préfère, et ça on s'en doute, hein, s'exprimer largement à travers sa guitare.
Oui, c'est vrai que le plaisir du texte, le plaisir des mots, on l'a pas, lui il a pas mal et même énormément d'autres qualités. Et donc, c'est un rôle de parolière que sa femme va prendre, qu'elle avait donc effectivement déjà élaboré bien avant ce projet solo de David Gilmour.
Et au début des années 90, quand Roger Waters a quitté le groupe avec Fracas, enfin ça c'était plutôt au milieu des années 80, en tout cas au début des années 90, David Gilmour s'était retrouvé seul aux commandes de ce navire immense. On n'a pas idée à quel point, parce que c'est une multinationale. Hein, donc et Roger Waters c'était le parolier principal. Gilmour avait donc assumé l'écriture, c'est un exercice qu'il paralysé quasiment. Hein.
Ben oui, il avait dû le faire beaucoup, notamment sur l'album qui avait suivi cette grande rupture Waters-Gilmour. Hein, c'était l'album Momentary Lapse of Reason. Et voilà, c'était pas confortable pour lui. Donc, c'est là que Polly Simpson est venu à la rescousse, lui rapporter ce réconfort, notamment, on l'a dit, pour l'album de Division Bell en 94. Et elle a écrit une grande partie des textes de ce disque, dont le chef-d'œuvre, hein, le chef-d'œuvre dont on se rappelle bien, High Hopes.
Absolument, ouais. Et depuis cette époque, il forme ce que Gilmour appelle lui-même un véritable mariage artistique, parce qu'elle parvient à mettre des mots sur ses émotions. Et lui, s'occupe tout simplement, entre guillemets, de la billette musical.
Et ça marche à merveille. Hein. C'est vrai que, un couple dans la vie, mais aussi un couple d'artistes qui nous propose des choses magnifiques à chaque fois.
Et ce couple qui fait des étincelles, et notamment sur ce morceau aussi, un extrait de On an Island, The Blue.
Thank you.
The Blue à l'instant, donc ça c'est encore un autre magnifique extrait de cet album. Et puisqu'on parle d'alchimie et de famille musicale, On an Island brille aussi par le casting de ses invités.
Et oui, et c'est un véritable casting de luxe hein, ici, puisqu'on retrouve notamment, pour chanter les chœurs sur l'album, David Crosby et Graham Nash, hein, de Crosby, Stills, Nash,
bien entendu, ouais.
And Young, parfois aussi.
Ah oui.
Et quand on mélange finalement ces harmonies vocales stellaires à la voix de Gilmour, eh bien, la magie est absolument totale. C'est vrai que cet album, je ne sais pas si il vous procure la même chose, vous qui nous écoutez à la maison, ou vous, Laurent,
oui.
C'est un album qui est extrêmement apaisant, je trouve.
Oui.
C'est vraiment, en plus, pour le moment, c'est le moment de l'écouter quand il fait bon, etc. Vous écoutez ça sur votre terrasse, dans votre jardin, c'est juste magnifique. Quoi.
Ah,
ça,
absolument.
Ça fait du bien. Et donc, on retrouve aussi, hein, dans ce casting de rêve, outre ses voix incroyables, Richard White de Pink Floyd, qui lui aussi va apporter sa part de magie à tout ça, avec ses claviers, ses nappes de claviers qui sont... Mmh. Tellement Pink Floydienne, et puis aussi un vieil ami de David Gilmour, Robert Royat, qui vient jouer du cornet, notamment, et des percussions.
Ah oui, d'accord. Et alors, au milieu de toute cette instrumentisation organique, il y a un détail sonore fascinant, c'est un clin d'œil direct au passé glorieux de Pink Floyd.
Ben oui, Gilmour a fait venir en studio un musicien alors très très spécialisé qui joue dans l'instrument qui est aussi un instrument historique, c'est l'harmonica de verre. Hein. Mmh. Donc voilà, il vient apporter ses sonorités. L'homme est arrivé avec des verres à vin classiques sur lesquels il passait ses doigts aussi, mais aussi avec une machine incroyable actionnée par des pédales faisant tourner une série de bols en verre. Les fans ont immédiatement reconnu ce clin d'œil et ces textures sonores. C'est exactement la même technique que Pink Floyd avait utilisée des années auparavant pour créer la fameuse introduction de l'album Wish You Were Here. On s'en rappelle à ce côté cristallin du début de Wish You Were Here qui nous porte dans cette ambiance.
Ouais.
Et voilà. On sait que c'est vrai que Gilmour aimait bien replacer parfois des petits clins d'œil au passé avec I Hope, c'était des cloches hein, qui rappelaient
ouais.
Le morceau de Gilmour Fat Olsen.
Fat Olsen.
Qui rappelait le morceau de Gilmour Fat Olsen, effectivement. Donc ici, bah, voilà, clin d'œil évident donc à l'album Wish You Were Here.
Mais l'album possède aussi une grandeur qui dépasse le cadre intime de cette péniche.
Ouais, tout à fait. Pour donner une ampleur cinématographique à l'ensemble, ils ont quitté cet endroit magnifique sur la Tamise pour se rendre dans les mythiques studios Abbey Road. Hein. On fait les choses comme il faut. Et donc, ils vont y enregistrer là-bas une très très grande session orchestrale sous la direction de Zbigniew Plesner, un immense compositeur polonais de musique de film. Et c'est ce contraste finalement entre la proximité et le côté, on va dire, très cocoon du bateau, et de l'autre part, la majesté de l'orchestre symphonique qui donne finalement cette couleur tout à fait unique à On an Island.
Et ça, oui, c'est ça, je pense. Oui. Et ça a payé, hein, puisque l'album a été propulsé numéro 1 à sa sortie. C'est l'œuvre d'un homme profondément heureux. Et d'ailleurs, à cette époque, David Gilmour fuyait de plus en plus la célébrité classique.
Oui, exactement. C'est d'ailleurs quelqu'un qui n'a jamais vraiment aimé ça, être... c'est pas vraiment un people, hein, c'est quelqu'un qui aime vivre en famille, hein, père d'une grande famille de 8 enfants. Il protégeait farouchement sa bulle en permanence. Il a même raconté qu'il refusait souvent de signer des autographes dans la rue aux jeunes fans, comparant cela aux tribus amérindiennes qui refusaient d'être prises en photo de peur qu'on leur vole leur âme. Hein. C'est un petit peu particulier, mais... Voilà, on peut comprendre que c'est quelqu'un qui veut, ouais, qui a besoin de d'une paix intérieure, qui a besoin de rester dans son côté. Et il repousse parfois un petit bout de lui-même avec des parfaits inconnus.
Oui, je suis quand même un grand admirateur de David Gilmour, mais là, je ne le rejoins pas du tout. Parce que pour moi, quand on est une rockstar ou même un acteur célèbre, vous ne pouvez pas en vouloir au millième mec qui vient vous taper sur l'épaule pour vous demander un autographe, parce que pour lui, la première fois.
C'est clair, je suis d'accord avec vous, et c'est clair que je pense pas qu'il leur en veut. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez réservé, en fait, tout simplement. C'est quelqu'un de presque timide. Et donc, parfois, il a besoin de retourner un petit peu dans son cocon. Et on peut comprendre aussi que quand on est sollicité en permanence, parfois, ça peut être aussi un petit peu...
C'est la rançon de la gloire.
C'est la rançon de la gloire.
Voilà. Alors, en tout cas, la seule chose qu'il accepte de partager avec nous, ben, voilà, donc c'est sa musique. Et même s'il avoue lui-même que ses doigts ne sont pas les plus rapides du circuit, ben, tant mieux, de toute façon.
Oui, on n'a pas besoin de ça.
Voilà, exactement. Son toucher de guitare reste instantanément reconnaissable entre mille. La preuve avec ce morceau titre ici, qui célèbre ses 20 ans et avec lequel on referme ici, en tout cas, cette partie de notre spécial David Gilmour. C'est On an Island. Merci beaucoup, Laurent.
Avec plaisir.
Je vous souhaite un très bon dimanche.
Vous aussi.
Remember that night, white stairs in the moonlight. They walked here too, through empty playground. This ghost's town. Children again on rusty swings. Sharing a dream on an island, it felt right. We lay side by side between the moon and the tide, mapping the stars for a while. Let the to the stars, ebb and flow, let it go, feel the warmth beside you.
On an Island, cet album qui sortait donc il y a 20 ans, hein, c'était le 6 mars 2006 et album qui a aussi été suivi d'une tournée mondiale. On se rappelle des passages chez nous en Belgique et on se rappelle surtout du live in Gdansk en Pologne, ancien chantier naval d'où avait démarré le mouvement Solidarność qui avait été lancé par les Jvalesins hein, dans les années 80. Ce concert a connu un des rares moments, si pas le seul, où le titre Echoes de Pink Floyd fut joué en live, mais aussi l'interprétation de A Great Day for Freedom. Ça, c'est un extrait de Division Bell avec la voix du claviériste Richard Wright, hein, donc feu Richard Wright, ce qui fut bien entendu très symbolique vu l'endroit où se donnait le concert. Mais revenons où nous nous étions arrêtés tout à l'heure dans la liste des collaborations. J'ai évoqué la participation de Pete Townshend sur l'écriture de plusieurs titres sur About Face, et l'un de ceux-ci était White City Fighting, finalement refusé parce que David Gilmour ne s'identifiait pas aux paroles. Cependant, Pete Townshend a repris la chanson pour son album solo White City Novel en 1985 et sur lequel David Gilmour joue les lead guitar sur deux extraits. Il y a le titre White City Fighting qu'il avait donc refusé, et il y a aussi Give Blood qui était sorti en single à l'époque, et vous allez l'entendre, hein, le jeu de guitare est bourré d'écho. Ça peut rappeler ce que Gilmour avait popularisé sur des morceaux comme Red Like Hell ou encore Another Brick in the Wall. On va écouter ça et on va l'enchaîner avec un titre de Paul McCartney. Mais tout d'abord, voici ce fameux Give Blood.
another day. Everything a flutter, but another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel.
Enchaîné, où on retrouve une participation très importante de David Gilmour. Give Blood, tout d'abord, ça c'était l'album White City and Novel, donc pour Pete Townshend en 1985. Et puis à l'instant, Paul McCartney avec No More Lonely Nights. Là c'était donc tiré des sessions d'enregistrement de l'album Give My Regards to Broad Street, qui était sorti en octobre 1984 et qui est aussi une bande originale du film du même nom. non. Alors pour la chanson ici No More Lonely Nights, le jeu de David Gilmour est l'un des derniers moments à être enregistré, et pour ces sessions, il avait utilisé sa fameuse Black Strat, mais aussi la Red Strat qu'il avait commencé à utiliser au milieu des années 80 et puis qu'il a largement utilisé après. C'était devenu son instrument principal dans les années 90. Alors, autre artiste avec lequel David Gilmour a régulièrement collaboré, c'est bien entendu Brian Ferry, le leader de Roxy Music. Leur première collaboration fut Boys and Girls, sorti en 1985, suivi de Easy Love Strong Enough, un titre figurant sur la bande originale du film Legend de Ridley Scott, où l'on retrouve le son caractéristique de Gilmour à cette époque, et notamment grâce encore une fois à un solo remarquable. À noter que l'instrument qui a été utilisé là, on peut le voir d'ailleurs dans les images, c'est la Strat blanche, celle qui était estampillée 00001, comme étant, c'était pas vraiment la toute première Strat, parce que c'était une sorte de guitare hybride, mais bon, c'est quand même une guitare de grande valeur dont il s'est séparé puisqu'elle a été vendue aux enchères. Alors, en live, là, c'est pas piqué des verres non plus, parce que David Gilmour a accompagné énormément de personnes. Il y a Pete Townshend, il y a aussi des collaborations avec Arcadia, des membres du groupe de Run the Run. Il y a eu Paul Young, il y a eu Warren Zevon. Il a joué sur l'album Run Straight Down, qui était sorti en 89. Kate Bush, bien entendu, puisque c'est lui qui a quand même lancé sa carrière. On en parlait tout à l'heure avec Dominique Raguet, donc je ne vais pas être redondant, mais en 1989, on le retrouve de nouveau sur l'album Love and Anger. B.B. King, ça c'est assez particulier parce que David Gilmour avait eu l'honneur de jouer, il avait une grande admiration pour B.B. King, il a eu l'honneur de jouer à ses côtés, donc de ce géant dans l'émission de Jules Holland. On retrouvait d'ailleurs Jules Holland aussi au piano sur une version de Easy Sight to the Blind. Il a accompagné Seal sur une superbe reprise de Hey Joe pour une émission de télé dont Jules Holland était le directeur musical. Donc ici, spécial télévisé qui célébrait les 30 ans de Amnesty International. David Bowie aussi, avec Arnold Lane en 2006. Donc ça, c'était au Royal Albert Hall. Et là, David Gilmour venait de sortir On an Island et célébrait justement son succès avec 3 concerts dans cette salle mythique, accompagné de feu Richard Wright, bien entendu. Donc ici, et bien entendu, David Bowie. Et puis alors, des apparitions aussi sur d'autres bandes originales de films, et ici notamment un film qui était sorti en 1991 qui s'appelle Mr. Roadrunner, et sur lequel on retrouve une chanteuse anglaise qui s'appelle Mika Paris en compagnie d'autres musiciens dont David Gilmour, et qui reprennent I Put a Spell on You. On va écouter ça juste après ceci.
Classic 21 Soundtrack avec Laurent Deboeuf.
Your mind
I Put a Spell on You, interprété donc avec la chanteuse Mika Paris. Je peux pas tout vous diffuser, hein, parce que voilà, on est un petit peu pris par le temps. Mais c'est des choses que je reprogrammerai donc d'ici quelques semaines, tout comme Icos, que j'aurais bien voulu vous passer aussi, hein, cette version qui a été enregistrée à Gdansk. Mais bon, voilà, si je passe ça, ben, y a plus de place pour mettre d'autres choses. En tout cas, hors scène, on l'a dit tout à l'heure, hein, David Gilmour, ici avec Laurent Riepy, n'a jamais vraiment joué le jeu de la rockstar hollywoodienne. C'est plutôt du genre à disparaître longtemps, à vivre en famille avec ses 8 enfants, à écrire avec Polly Samson, son épouse. C'est ce décalage, hein, finalement, qui le rend fascinant aussi à l'ère des réseaux sociaux, parce que bah, ce personnage est quand même parmi les greatest guitarists of all time, qui est vénéré par beaucoup de monde, intronisé partout où le rock a des panthéons, mais qui semble surtout préoccupé par le fait de sonner juste, émotionnellement parlant. Son héritage, ce n'est pas seulement un catalogue de soli, c'est une certaine idée de la sobriété. Et dans le courant de l'année, enfin entre 2015 et 2016, David Gilmour tournait avec l'album Rather Than Luck. Il a été rejoué à Pompéi, là où Pink Floyd avait joué en 1969 sans public, mais là il y avait beaucoup de public, et je vous propose de retrouver deux titres emblématiques de Pink Floyd qui ont été enregistrés ici à Pompéi. We'll be right back.
faithful to their knees, to hear the softly spoken magic spell.
Time et Breathe enchaînés donc lors du live à Pompéi qui était enregistré en 2016 et qui est ressorti maintenant aussi en album. Alors il y a une collaboration que j'ai oublié de souligner, mea culpa, mais c'est quand même aussi assez important, c'est avec le groupe anglais The Orb. En 2010, ensemble, David Gilmour était venu jouer sur des titres d'un album qui s'appelle Metallic Spheres, et il y a eu une suite, en tout cas un remix aussi de cet album qui était sorti en 2023 et renommé pour l'occasion Metallic Spheres in Colors. Il est 11h52. Alors, le matériel de David Gilmour, c'est un petit peu comme la cuisine d'un grand chef, hein, parce qu'on pourrait acheter les mêmes ingrédients, les mêmes guitares, les mêmes effets, etc. Ce sera quand même difficile de sonner pareil parce qu'on n'a pas les mêmes mains. Ben oui, la magie, en tout cas pour David Gilmour, c'est le dosage. Alors, il y a les albums solo, Razor Dadlock sorti en 2015, Luck and Strange en 2024, et des tournées, évidemment, qui ont suivi. La dernière tournée, ça nous a permis aussi de pouvoir découvrir les talents de sa fille Romani, qui est chanteuse, qui est harpiste aussi, qui est comédienne également, parce qu'elle suit des cours de comédie à l'université. Elle est apparue dans des séries déjà très réputées en Angleterre. Et on va refermer tout doucement ici donc avec un extrait du Luck and Strange concert, où il y a un morceau partagé, c'est une reprise de Between Two Points, partagé avec sa fille Romani Gilmour. Simplement vous rappeler donc les réservations pour notre prochain festival sont lancées. Ce sera donc le 6 juin au Louvre Expo à la Louvière. On attend que vous, bien entendu. Dans un instant, ce sera BJ Sunday Brunch. Et puis pour la semaine prochaine, avec Laurent Répi, on évoquera la carrière de Jon Anderson. Dominique Ragueb viendra souligner les 40 ans de la sortie de Black Celebration de Depeche Mode. Et puis Walter de Padua consacrera son micro-sillon à With a Little Help for My Friends de Joe Cocker. Voilà, et donc on referme ici maintenant, ce matin, avec ce Between Two Points. Un grand merci à toutes et à tous. J'espère que cette émission vous a plu. Merci en tout cas pour votre fidélité. Je vous souhaite un très très bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. From
Découvrez d'autres podcasts bien rock'n'roll sur classique21.be.